With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Binge Audio présente... C'est un privilège inouï que celui accordé à Edgar Snow ce jeudi 1er octobre 1970. En ce jour de fête nationale chinoise, il est installé au balcon de la tribune d'honneur, place Tiananmen. Cheveux gris blancs coiffés en arrière, sourire charmeur, il salue la foule avec la prestance d'un acteur hollywoodien. Choc des cultures. À ses côtés se tient rien moins qu'un demi-dieu. En tout cas, aux yeux de son peuple. Mao. Le grand timonier couvre son vieil ami d'un regard complice. Pourquoi un simple journaliste américain, quasi inconnu dans son propre pays, jouit-il d'un si grand honneur? Peut-être parce qu'Edgar Snow n'a pas seulement raconté l'histoire. Il l'a faite. Connaissez-vous l'histoire d'Edgar Snow? Edgar naît à Kansas City, dans le Missouri. Son père est imprimeur et passe son temps à déclamer du Goethe entre ses machines, ce qui a pour effet d'éveiller le goût de son fils pour l'écriture et les grands voyages. À 20 ans, Edgar étudie le journalisme à l'université du Missouri. Un an seulement. Il ne tient pas en place. Il part s'installer à New York, en colocation dans un appartement de Manhattan. Vous aurez compris qu'Edgar Snow n'est pas exactement resté dans l'histoire comme le plus grand promoteur du capitalisme. C'est pourtant en se mettant au service d'une agence de publicité de New York qu'il commence à gagner sa vie. Pas vraiment Mao compatible. Puis, on s'éloigne encore des préceptes du petit livre rouge, Edgar joue en bourse. Avec assez d'habileté pour amasser une jolie somme. En cet été 1928, ses rêves peuvent commencer à prendre forme. Pour économiser le coût du trajet, Edgar s'engage comme matelot sur un navire commercial. À lui le Pacifique. Il découvre Hawaï, le Japon, puis il débarque à Shanghai. Edgar déambule dans les rues de la mégalopole. C'est un choc. Deux extrêmes cohabitent. Le Bund, célèbre boulevard de Shanghai, est jalonné par les banques et les compagnies coloniales. Mais à deux pas, des morts de faim sont ramassés chaque jour sur les trottoirs. Edgar ne s'imagine pas repartir sans témoigner. Il a justement dans sa poche une lettre de recommandation de son université à remettre au journal local de langue anglaise, le China Weekly Review. Son directeur est un Américain, diplômé de la même université qu'Edgar. Au China Weekly Review, pour 180$ par mois, Edgar se met à raconter la vie à Shanghai. Puis, il voyage à travers les villes et les campagnes chinoises. L'immensité du pays le subjugue. Sa beauté aussi. Le jeune reporter découvre les maux du pays. Les famines, les inondations, la corruption, l'occupation étrangère. De tout cela, la presse ne parle pas. Lui va le faire. Et s'imposer comme l'un des plus grands connaisseurs étrangers de la Chine profonde. Edgar est sympathique et brillant. Il multiplie les rencontres, séduit écrivains et intellectuels chinois. Il est frais, enthousiaste, au point de se montrer parfois ingénu. Comme lorsqu'il est séduit par le leader du gouvernement farouchement nationaliste, Chiang Kai-shek. Chiang a plus de diplômés de Harvard dans son cabinet qu'il n'y en avait chez Franklin Roosevelt. S'émerveille Edgar. Lors d'un détour par l'Inde en 1931, il rencontre Gandhi. Son verdict, qu'il révisera plus tard, est surprenant. Pas impressionné, tranche-t-il. En 1932, Edgar épouse Hélène Foster, apprenti journaliste et employé au consulat américain de Shanghai. Le couple s'installe à Pékin. Edgar est hyperactif. En plus de son poste de reporter, il est le correspondant de plusieurs quotidiens américains et anglais. Avec Hélène, il enseigne le journalisme et apprend le chinois, qu'il ne maîtrisera cependant jamais parfaitement. Il édite même une collection de nouvelles chinoises. Toujours en compagnie d'Hélène, Edgar lit les textes fondateurs du marxisme. Le couple fait la connaissance de membres d'un réseau communiste clandestin. Ces « rouges » invitent Edgar à visiter le siège de leurs dirigeants, à Yan'an et Bo'an, dans les montagnes du nord-ouest du pays. Parmi ses leaders, l'inconnu Mao Zedong. Avec ce voyage, Edgar ne se lance pas dans un simple reportage. Il embrasse une aventure. Nous sommes en 1936. Les lignes militaires de Chiang Kai-shek interdisent l'accès à la région contrôlée par l'armée rouge. Pendant un an, entre octobre 1934 et octobre 1935, son armée nationale a pourchassé les troupes communistes. C'est la fameuse « Longue Marche », qui a fait 100 000 morts parmi les soldats rouges. Au péril de sa vie, Edgar franchit clandestinement les lignes. Il atteint Yan'an. Les survivants de la Longue Marche y reprennent des forces. Les leaders habitent un village voisin, Bao'an, dans des sortes de grottes aménagées creusées dans la roche. Edgar est accueilli par des foules de cadets et de soldats. Tous crient des slogans de bienvenue. Le journaliste réalise qu'il vit un grand moment d'histoire. Il ne peut s'empêcher d'être submergé par l'émotion. Pendant 4 mois, les communistes le font voyager dans leur village. Edgar partage leurs maigres repas, leurs rêves, leurs récits de guerre. À Bao'an, il interviewe les jeunes Mao, Zhou Enlai et d'autres bandits rouges. Tous ces futurs dirigeants du pays racontent leur projet de création d'une république populaire de Chine. Mao accorde 10 nuits d'entrevue à Edgar. Dans une petite pièce au mur passé à la chaux, il se confie à la lueur d'une bougie. Edgar est aidé par un interprète du parti. Installé sur une table étroite, il noircit son carnet de notes. Le récit de Mao commence par la petite enfance, évoque son premier mariage, non consommé. Ce récit, Mao ne le livrera à personne d'autre. À son retour à Pékin, Edgar écrit avec frénésie. Il publie d'abord un rapide compte-rendu dans le China Weekly Review, puis il rédige une série de publications traduites en chinois. Red Star Over China, son livre, est publié pour la première fois à Londres en 1937. Edgar rapporte que Mao n'est pas seulement un militaire, mais qu'il est un réformateur politique. Il le présente au monde, avec l'intuition de sa grandeur future et de l'avènement des communistes au pouvoir. Red Star Over China a été surnommé le plus grand scoop de l'histoire. Plus de 100 000 exemplaires sont vendus en Angleterre en un mois. Le livre a un impact considérable aux États-Unis, en Europe et en Asie. De jeunes intellectuels chinois rejoignent l'armée rouge après la lecture de ce texte prémonitoire. Les communistes sont conscients de l'importance de cet ouvrage, qui sert à merveille leur propagande et présente Mao sous un jour grossièrement flatteur. Le livre d'Edgar documente un moment d'histoire avec un grand H. Mais pas seulement. Le reporter ne mesure pas encore à quel point il a été manipulé sur certains points. Les communistes avaient soigneusement préparé sa venue. Les réponses du futur leader du parti avaient été préparées en bureau politique, pour soigner sa légende, sans grand souci de vérité. On trouve ainsi dans les propos de Mao, soigneusement relus et approuvés par lui-même, sa relecture de l'histoire. Celle qui lui permettra de triompher dans les luttes internes au Parti communiste. Mais à Pékin, pour l'instant, la grande affaire, c'est la guerre contre le Japon. Nous sommes en juillet 1937. L'invasion de la Chine par son voisin commence. Edgar recueille des témoignages d'atrocités. Il est très marqué. La violence de l'armée japonaise le terrifie. Il témoigne. Certains Japonais eux-mêmes ressentent de la honte et de l'humiliation face à ce qu'ils voient. Le couple Snow ne se contente plus de journalisme. Edgar et Hélène deviennent membres fondateurs d'une importante association de coopératives de travailleurs. La période renforce encore les liens d'Edgar avec le peuple chinois et avec Mao, qu'il visite à nouveau dans son QG en 1939. C'est alors qu'éclate la Deuxième Guerre mondiale. Pour les Snow, les temps deviennent très durs. Ils ont peur d'être faits prisonniers par les Japonais. Parallèlement, leur santé faiblit. Ils souffrent de carences. Voilà 10 ans qu'ils n'avalent plus d'aliments crus, par peur de la dysenterie. Leurs relations se tendent. Hélène rentre seule aux États-Unis et pousse Edgar à rester en Asie comme correspondant de guerre. Leur mariage n'y résistera pas. En 1941, Edgar visite les régions d'Asie occupées par les Japonais. Il écrit son deuxième livre majeur, Battle for Asia. L'année suivante, le Saturday Evening Post l'envoie en Inde et en Russie. Horrifié par les nazis, aveuglé par son amitié avec les communistes chinois, Edgar se met à rédiger des textes qui ont bien mal vieilli. Il dit ne pas savoir si Mao et les communistes chinois sont des démocrates agraires ou plutôt des communistes attachés à un régime totalitaire. Dans un livre, People on Our Side, il souligne leur rôle dans la lutte contre le fascisme. Dans un discours, il continue de décrire Mao et les communistes chinois comme une force progressiste qui souhaite une Chine démocratique et libre. Dans ses articles, il déplore l'humeur anticommuniste des États-Unis et se justifie « Dans ce cataclysme international provoqué par les fascistes, il n'est pas possible pour quiconque de rester neutre. » En 1949, alors que Mao prend le pouvoir à Pékin, Edgar épouse à New York sa deuxième femme, Lois Wheeler. Cette comédienne a fait les beaux jours de Broadway. Elle a participé à la création du mythique Actors Studio. Tous deux ont un fils, Christopher, et une fille, Xian, du nom d'une ville chinoise. L'aveuglement d'Edgar trouve ses limites. Il finit par admettre que les communistes chinois ne forment pas un mouvement démocratique. Cette prise de conscience ne l'empêche pas d'être rattrapé par ses écrits sur les communistes en tant que correspondant de guerre. La CIA et le célèbre sénateur McCarthy vont y veiller. Aux États-Unis, la chasse aux communistes est ouverte. La CIA rédige un dossier de 500 pages sur Edgar. Un travail facile vu la quantité de preuves d'acquaintance avec les communistes offertes par Edgar lui-même dans ses écrits. En plus, ce réquisitoire est truffé d'accusations mensongères. Et il a des conséquences très lourdes. Pendant les années 50, malgré 2 nouveaux livres sur la Chine, Edgar a du mal à gagner sa vie grâce à son écriture. Sa femme Lois figure elle aussi sur la liste noire. Elle ne peut plus jouer à Broadway, ni tourner à Hollywood. Le couple Snow et ses 2 enfants se voient contraints de s'expatrier en Suisse en 59. Pour 1 an, pense-t-il. Mais Edgar ne retournera plus jamais dans son pays. À Pékin, on n'a pas oublié Edgar. 1 an après son installation en Suisse, en 1960, le président Mao et son premier ministre Zhou Enlai l'invitent. Le grand bond en avant, cette politique économique ultra-dirigiste lancée en 58, tourne au fiasco. Mao a besoin de donner le change. Une nouvelle fois, il va berner son vieil ami. Comme d'autres invités étrangers, dont un certain François Mitterrand, Edgar se fait balader lors d'une visite très organisée. Il ne voit rien de la plus grande famine de l'histoire de la Chine, avec ses 36 millions de morts et ses 4 cannibalismes. À son retour, il dresse un tableau positif de sa visite. Ce n'est que 10 ans plus tard, pendant son dernier voyage à Pékin avec son épouse, qu'Edgar réalise enfin qu'il est manipulé. Nous sommes donc de retour, en ce 1er octobre 1970, sur la place Tiananmen. Edgar est à la tribune. Il a glissé sous sa veste un pull rouge du plus bel effet. Mao est à ses côtés, Lois en retrait. Edgar est frappé par l'exploitation d'une photo qu'il a lui-même réalisée. C'est un portrait de Mao devant sa grotte. Il a alors 43 ans, il porte exceptionnellement l'habit militaire et une casquette avec une étoile rouge. Ce portrait, reproduit par millions, apparaît en dimensions gigantesques lors du défilé. Edgar ose interroger le grand timonier. Pourquoi ce culte de la personnalité ? Mao s'en tire par une pirouette et détourne l'attention d'Edgar en le chargeant d'une mission. Transmettre secrètement une invitation à Richard Nixon, le président des États-Unis le plus farouchement anticommuniste.
Un spectacle inimaginable et impensable quelques mois plus tôt, l'hymne national américain joué par une musique militaire chinoise, celle de l'Armée populaire de libération.
Edgar accomplit sa mission. Mais un cancer l'empêchera de voir se réaliser son vieux rêve du rapprochement entre ces deux peuples de cœur. Mao et Zhu envoient en Suisse une escouade de grands médecins et d'infirmières. Pour soigner le grand ami du peuple chinois, ils pratiquent l'acupuncture. Peine perdue. Nixon lui adresse une lettre d'hommage. Il n'y répondra pas. Edgar meurt au moment où Nixon s'apprête à se rendre en Chine. Il s'éteint le 15 février. Nixon atterrit à Pékin le 21. Selon ses souhaits, une partie de ses cendres est dispersée dans l'Hudson et l'autre à Pékin. Elles sont enfouies dans un jardin de la capitale, en présence de Lois, de Xian, de Zhou Enlai, de l'épouse du Premier ministre, Deng Yingjiao, et d'autres figures de l'ère maoïste. Une immense peine se lit sur les visages. Mao est absent. Après le décès de son époux, Lois revient en Chine à deux reprises. En 1989, elle y prend fête et cause pour les étudiants de la place Tiananmen. En 2000, elle tente d'aider l'une des mères de Tiananmen, assignée à résidence après avoir réclamé justice pour son fils assassiné. Lois menace le pouvoir chinois de rapatrier les cendres de son mari aux États-Unis. Elle obtient la libération de la vieille dame. Depuis, elle n'a plus jamais remis les pieds à Pékin. 50 ans plus tard, Edgar reste considéré comme un héros du peuple chinois. Les autorités chinoises rêvent ouvertement de trouver son successeur parmi les journalistes américains. En réponse, les médias occidentaux moquent Edgar en idiot utile au service de la propagande maoïste. Dans un documentaire sur les années suisses d'Edgar réalisé en 2012, Lois s'interroge sur l'aveuglement de son mari. Difficile de n'avoir rien vu de la cohorte des victimes de Mao, de la révolution culturelle, des gardes rouges. Rien vu de ses intellectuels, ses professeurs, humiliés, déportés, assassinés, morts pour s'être opposés ou avoir juste fait de l'ombre à Mao. Plutôt que d'accabler son époux, Lois dénonce la toute-puissance manipulatrice du prosélytisme maoïste. Qu'un journaliste aussi brillant qu'Edgar ait pu être instrumentalisé montre la puissance de l'image, de la propagande, et à quel point les individus sont faillibles face au pouvoir. Héros de cette histoire, Edgar Snow. Auteur, Stéphane Collineau. Narratrice, Juliette Livartowski. Réalisateur, Thomas Rosès. Générique, François Clos et Thomas Rosès. Connaissez-vous l'histoire ? Car l'histoire, c'est nous.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle « 20 000 lieues sous ma chair ». L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair dans Le cœur sur la table.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.